Le journal, Anthony Montandon, bonsoir.
Bonsoir, il l'a fait, Marco Odermatt a remporté aujourd'hui la victoire lors de l'épreuve du Super G des Mondiaux de Saalbach. Le skieur nidwaldien n'a laissé aucune chance à ses adversaires et décroche l'un des rares titres qui lui manquait encore. Tous à Genève pour attirer l'attention des CFF, des élus de la région se sont joints aujourd'hui à l'appel national pour préserver la qualité de la ligne du pied du Jura. Le but, maintenir la pression sur l'ex-régie fédérale. L'école secondaire du Bas de la Vallée à Malraix fête cette année son siècle d'existence. Les responsables de l'établissement ont dévoilé aujourd'hui les contours de leur programme pour célébrer cet anniversaire comme il se doit. Les détails dans quelques instants. Les nuages devraient encore régner dans le ciel de la région demain matin. Ils pourraient toutefois se dissiper en bonne partie au fil des heures. Cette météo devrait se poursuivre dimanche également. Côté température, le mercure grimpera au maximum ce week-end jusqu'à 8 degrés. Marco Odermatt a écrasé le Super G des Mondiaux de Saalbach. Le skieur nidwaldien a réussi la course parfaite aujourd'hui sur la piste autrichienne pour devancer l'Autrichien Raphaël Haser d'une seconde et le Norvégien Adrian Sejersted d'une seconde 15. Sacré il y a 2 ans en géant et en descente à Courchevel, il remplit une des rares lignes qui manquait encore à son palmarès. Jamais médaillé dans la discipline jusqu'à présent lors d'un grand rendez-vous, cet or en Super G a donc une saveur particulière pour Marco Odermatt.
Oui, exactement. C'est incroyable d'avoir 3 médailles d'or maintenant à chaque discipline que je fais. Oui, c'est un autre rêve.
On a l'impression que c'était la course parfaite pour vous aujourd'hui.
Oui, exactement. L'ascent sur ma ski était parfait. J'étais 500 après la 3e porte. Et comme ça, tu peux faire comme tu veux. Ça marche. Et comme ça, je peux attaquer tout.
Quand vous arrivez à l'arrivée, vous serrez le point. On a l'impression que vous savez déjà que vous avez gagné à ce moment-là.
Oui, exactement. Si j'ai fini ma course, je sais, c'est une manche parfaite de moi et c'est très très difficile pour être plus vite que moi.
Un titre au Super G, bah maintenant, on va aller chercher ce doublé.
Ouais, bien sûr, c'est quelque chose qui peut avoir des chances. Mais je suis très heureux avec une médaille d'or et je prends tout qui vient.
Un doublé avec la descente prévue dimanche et pourquoi pas un triplé avec le géant qui se disputera la semaine prochaine. Cette médaille d'or de Marco Odermatt met fin à une disette de 16 ans pour les skieurs suisses qui n'étaient plus montés sur un podium mondial en Super G depuis le sacre du Neuchâtelois Didier Cuche à Val d'Isère en 2009. Également attendu, les autres Helvètes ont raté le coche. Stefan Rogentin a fini 9e, Franjo von Almen 12e. Le fribourgeois Alexis Monet est lui parti à la faute à l'occasion de sa première course dans des mondiaux. Alexis Monet.
Peut-être un peu trop direct, un peu trop tôt aussi dans l'entrée du virage. J'ai perdu le ski extérieur puis il n'est jamais revenu. La neige n'était pas super, j'avais vu à la reconnaissance un peu une erreur bête, mais ouais, je peux être content de comment j'ai skié jusque-là, je pense.
Il y avait un bon chrono intermédiaire, vous étiez 2e provisoire au 3e pointage. Il y a un peu de déception.
C'est clair, quand on sort, il y a tout le temps une déception, même si on n'est pas forcément tout devant. Aujourd'hui, je voulais simplement essayer de me faire plaisir, de skier vite, enfin le plus vite possible. C'est ce que j'ai fait. C'est les championnats du monde, c'est comme ça. Je pense que c'est mieux d'essayer quelque chose et puis de sortir que de juste descendre à l'arrivée. Je me sentais bien, les skis répondaient monstre bien et puis peut-être que ouais, c'est un peu ça qui a causé la faute. C'est la vie, c'est comme ça.
Des propos recueillis par Johan Tachet de Ski Actu. La prochaine course des Mondiaux de Saalbach se tient demain dès 11h30 avec la descente des femmes. Des élus ont pris le train en marche pour de meilleures connexions ferroviaires. De nombreuses personnalités politiques se sont retrouvées ce matin dans le train à destination de Genève. À la suite de l'introduction du nouvel horaire CFF 2025, la quasi-totalité des liaisons directes entre la ligne du pied du Jura et Genève ont été supprimées. Augmentation de la durée des trajets, impact sur l'attractivité économique et résidentielle. Les conséquences se font déjà ressentir dans la région. Le maire de Saint-Imier, Corentin Jeanneret, a fait le déplacement en train. Pour lui, cette nouvelle alliance est une manière de rester soudé.
C'est une solidarité vis-à-vis de cette ligne pied du Jura. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on participe à cette action de communication. Mais ça maintient aussi le dialogue de manière générale avec les CFF, avec tout ce qui concerne le transport ferroviaire. C'est toujours des occasions de pouvoir échanger, discuter, puis de maintenir la pression dans les différents dossiers qu'on a en cours avec les CFF et avec les instances en matière de transport ferroviaire en Suisse. On a des députés aux chambres fédérales qui sont sensibles à ce problème. On a les représentants de nombreuses communes romandes et même suisses-alémaniques. Et je crois qu'il faut maintenir la pression et que c'est que comme ça qu'on arrivera à défendre nos intérêts et puis à se battre.
L'Alliance des villes avait déjà contesté le nouvel horaire des CFF en mai 2023. Pour la maire de Bienne, aussi à bord du train, c'est un dialogue de sourds avec les CFF, Glenda González-Bassi.
Disons qu'on nous avait aussi donné un certain nombre de garanties et qui n'ont pas été tenues. Pour exemple, le changement de quai à Renan, qui n'est pas acté. Et on a peu de temps, et en plus, les gens doivent changer vraiment, descendre, changer de quai avec des bagages pour ceux qui vont à l'aéroport ou pour les familles, les parents qui ont des poussettes, des petits-enfants. Ce n'est pas du tout évident. Et ça veut dire qu'en fait, on est en train de donner un message aux populations, c'est venez en voiture. Et là, c'est de transférer les modes de transport pour poser des problèmes ailleurs, où il y a déjà des problèmes. Donc, ce n'est pas très cohérent.
Un dossier de Manon Becker. À noter que la récente annonce de l'Office fédéral des transports concernant une demande supplémentaire de 14 milliards de francs fait redouter le pire. Le montant avait été demandé pour consolider l'infrastructure CFF à l'horizon 2025. L'Alliance des villes et Ouest-Rail derrière la mobilisation redoute que la situation actuelle devienne la norme dans le futur. À Malraix, l'école secondaire du Bas de la Vallée fête ses 100 ans cette année. Et ce n'est pas un jubilé comme les autres qui s'annonce. Les festivités officielles auront lieu du 15 au 17 mai avec 3 soirées au public et aux anciens élèves. Mais d'ici là, plusieurs événements seront organisés comme des conférences et des concerts. Pour ses 100 ans, le but n'est pas de se tourner uniquement vers le passé. Manuel Leonardi, directeur de l'école secondaire de Malraix.
On a un petit peu renoncé à certaines choses caractéristiques comme une plaquette historique ou des grandes histoires. Alors bien sûr, on se réjouit de recevoir les anciens élèves. Le but, c'est plutôt qu'ils puissent se retrouver, discuter ensemble, fêter. Et puis, on voit plutôt le présent et l'avenir. Donc le thème, c'est le développement durable. Donc c'est plutôt pour le futur.
Et dans cette visée, tout un comité travaille bénévolement depuis un an pour mettre sur pied tout un programme. Les élèves de l'école secondaire se sont investis dans plusieurs projets, la construction d'un mur en pierre sèche, la plantation de 100 arbres offerts par les bourgeoisies des villages partenaires et aussi un projet culinaire bien précis que nous explique Manuel Leonardi.
Celui des champignons, il est particulier. Donc, il y a une culture de champignons qui s'est faite dans les sous-sols de notre école avec les autorisations des chimistes cantonaux. Et on a séché ces champignons et puis on en a fait ensuite un risotto qui est vendu dans le cadre des festivités.
Donc, les gens pourront goûter des champignons de Malraix.
Voilà, exactement, oui.
Manuel Leonardi au micro de Josette Sédou. La recette fonctionne pour le First Friday, l'événement qui anime la vieille ville de Bienne chaque premier vendredi du mois, revient ce soir pour sa première édition 2025. Il a démarré même il y a quelques minutes, à 18h. La manifestation a été créée pour dynamiser les commerces du quartier. Le concept fonctionne bien, selon l'un de ses cofondateurs. Olivier Parat ne compte du coup pas bousculer les habitudes pour cette année. Il nous dévoile les principes pour cette nouvelle saison. Olivier Parat.
On regarde le concept qui fonctionne donc depuis 2016, en y ajoutant encore plus de groupes régionaux, de concerts acoustiques, de performances de danse, de galeries ouvertes. Et puis bien sûr, on garde toute la richesse de la vieille ville, le savoir-faire de la vieille ville, motiver justement un maximum de personnes à participer donc à cet événement mensuel qui aura donc lieu 10 fois en 2025. Et puis bien sûr, garder un contact très étroit avec les autorités locales qui nous soutiennent dans ce projet.
Bienne tient son nouveau délégué à la culture. La ville annonce aujourd'hui l'engagement de Valentin Grosjean à ce poste. L'Orvinois de 37 ans succédera à Michel Wust. Il aura notamment pour tâche de conduire les négociations des contrats de prestation des institutions d'importance régionale pour la période 2028-2031, comme l'explique la direction biennoise de la formation, de la culture et du sport. Un détenu a été retrouvé sans vie mercredi dans une cellule de la prison régionale de Berne. La police cantonale bernoise indique aujourd'hui qu'il s'agit vraisemblablement d'un acte délibéré sans intervention d'un tiers. Les forces de sauvetage n'ont pu que constater le décès du jeune homme de 22 ans. Une enquête a été ouverte. Plus de 100 loups ont été abattus par les chasseurs en Suisse sur l'année écoulée, chiffre dévoilé par la fondation Cora qui surveille notamment les grands prédateurs. Les régions les plus concernées sont les Grisons, 47 loups tués, et le Valais avec 34 tirs. Les statistiques sont en constante augmentation ces dernières années. On dénombrait 80 loups abattus en 2023 et seulement 16 deux ans plus tôt. Toujours d'après la fondation Cora, la présence d'au moins 135 petits a été confirmée sur l'ensemble du pays. On vote dimanche sur l'initiative populaire des Jeunes Verts pour la responsabilité environnementale. Le texte demande de limiter les activités économiques afin de respecter les limites planétaires. C'est le seul objet pour cette votation fédérale et la campagne n'a jamais vraiment décollé. Peu d'affiches, peu d'articles dans les journaux. On comprend mieux pourquoi quand on penche sur les budgets de campagne. Les précisions de Marie Viomier.
Les partisans et les opposants à cette initiative ont engagé peu de moyens dans la campagne. Les montants déclarés au contrôle fédéral des finances sont particulièrement bas. Les Jeunes Verts et Greenpeace ont investi 233 000 francs pour soutenir l'initiative. Le Parti libéral radical a débloqué le double, 450 000 francs, pour la combattre. Il a reçu des dons importants des milieux économiques, notamment d'Économie Suisse et de l'Union Suisse des Arts et Métiers. En comparaison avec les votations fédérales de novembre dernier, ces montants sont dérisoires. Les budgets de campagne pour les objets concernant le droit du bail et la réforme du financement des soins ont dépassé les 2 millions de francs. Et pour la votation sur l'élargissement des autoroutes, les partisans ont même investi plus de 5 millions.
À l'étranger, Donald Trump persiste sur l'Agence américaine pour le développement international. Il faut la supprimer, réclame-t-il sur son réseau social Truth, malgré la contestation. Le président américain affirme que la corruption au sein de l'USAID est à des niveaux jamais vus. Le New York Times révélait que les effectifs passeraient de 10 000 à moins de 300 collaborateurs. Et l'ONU lance une mission d'établissement des faits en République démocratique du Congo. Objectif, se pencher sur les violations perpétrées dans l'est de la RDC, théâtre de violents combats entre l'armée et des rebelles. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a approuvé cet après-midi à Genève le lancement de ce mécanisme qui sera suivi d'une commission d'enquête internationale. Trois collaborateurs de l'entraide protestante suisse ont d'ailleurs été tués cette semaine dans le pays. Ils se trouvaient dans la zone de combat entre l'armée et les rebelles. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à l'antenne avec l'actualité dans le flash de 18h30. Très belle soirée et bon week-end.